Ok, début de terrain, nous sommes le mardi 15 juillet, il est 8h47.
L'ambiance est probablement la chose la plus facile du monde à ressentir et la plus difficile à expliquer. Englobante et intime à la fois, souvent partagée avec d'autres, mais si peu dissible. L'atmosphère vécue s'accorde au singulier.
Jean-François Augoyard, sociologue de l'urbain et directeur de recherche au CNRS.
Nous sommes tous et toutes traversés par l'ambiance, l'atmosphère des lieux que nous fréquentons. C'est la teinte de la lumière sur le sol, le parfum discret ou non qu'on capte tout à coup, les sons qu'on aime et les autres, les bruits. L'ambiance ou les ambiances nous traversent et elles influencent nos comportements, à tel point que la maîtrise des ambiances, sonores, thermiques, lumineuses et j'en passe, est aujourd'hui largement répandue dans la pratique de l'urbanisme. Étudier les ambiances, c'est donc se pencher sur les choix politiques, économiques, culturels, qui orientent la manière dont l'espace urbain est aménagé. Je m'appelle Lucas Lopez, je suis étudiant à l'Institut universitaire européen de la mer à Plouzané et je me suis intéressé à l'ambiance sonore du port de Brest dans le cadre de mon stage de fin de master en gestion de l'environnement littoral. Le but du travail qui m'a été donné était d'interroger la perception et les représentations du port civil et industriel de Brest, avec une attention particulière portée donc au son. Les ports sont des espaces particuliers dans nos imaginaires collectifs, des interfaces entre la terre et la mer, des lieux parfois dangereux, où l'on se figure un cortège de personnages variés, comme le marin, le docker, le clandestin aussi. La riche histoire culturelle du fait maritime dessine les évolutions des ports dans le temps, jusqu'aux transformations les plus récentes, industrielles, sécuritaires, économiques, que les ambiances permettent d'illustrer. Pour étudier l'ambiance sonore du port de Brest, j'ai croisé plusieurs méthodes de terrain. Des enregistrements et des observations sociologiques, des transects urbains, autrement dit des parcours pour mesurer l'intensité sonore, et une enquête par questionnaire. Si je vous dis les bruits du port de Brest, vous pensez à quoi ?
Voiture.
Le vent.
Corne de brume.
Bateau.
Égon élan.
Restaurant.
Musique.
Travaux.
Moteur.
Jean.
Normal.
Calme.
Fête.
Entre les mois de juin et de juillet 2025, 202 personnes ont répondu à ce questionnaire. 2613 mots ont été recueillis, dont 925 pour qualifier le port de manière générale et 829 pour l'environnement sonore. Ils ont ensuite été regroupés par catégorie sémantique pour être analysés, c'est-à-dire par groupe de sens. J'ai défini 17 catégories pour le port de manière générale et 10 catégories spécifiquement pour les bruits du port. Tous ces mots dessinent les contours des imaginaires contemporains du port de Brest et ils esquissent le portrait de son paysage sonore. La notion de paysage sonore a été popularisée, entre autres, par le compositeur canadien Raymond Murray Schafer dans les années 1970, avec son livre « The Soundscape, The Tuning of the World », traduit en français par « Le paysage sonore, le monde comme musique ». Il construit son analyse des paysages sonores sur la distinction entre les sons naturels, primordiaux, et les sons mécaniques, apparus avec le développement des sociétés humaines. Les signes du temps industriel et de la conquête de l'environnement par l'homme, le rythme du capitalocène. Le principal bruit du port de Brest aujourd'hui pour les personnes enquêtées, c'est lui. Le bruit de la route est présent partout sur le port, mais avec des variations, notamment suivant l'heure ou les endroits. La nature même du signal sonore produit par un moteur à explosion est particulièrement forte, entre 1000 et 4000 Hz. Donc, dans la bande des sons que nos oreilles entendent le mieux. Ce qui fait que ce bruit couvre tous les autres, en plus de bien se propager. Cet envahissant trafic routier, on le doit, entre autres, aux besoins du port. Le balai des camions en témoigne. On le doit aussi à la présence grandissante depuis 20 ans d'immeubles de bureaux et d'entreprises du secteur tertiaire installés sur les anciennes friches des sites industriels. Cette conquête de l'espace portuaire par la ville n'est pas propre à Brest, mais souligne bien deux réalités des ports contemporains. D'abord, cette obsession de la revitalisation des ports dans le jargon des porteurs de projets, traduit les profondes transformations et les crises qui ont touché les ports de moyenne envergure dans les années 80 et 90. Ensuite, il souligne l'autonomisation des activités portuaires. Leurs espaces se sont fermés au public et, petit à petit, disparaissent des imaginaires et des représentations collectives. Les espaces encore accessibles sont mis en scène par les pouvoirs publics et investis par les activités de service, dans une logique de marketing urbain et de contrôle social. Derrière le bruit du transport routier, on peut également entendre d'autres basses mécaniques sur le port. Le bourdon des moteurs des navires à quai, celui des frigidaires de la criée, ou celui des souffleries. Des sons qualifiés de lo-fi, basse fidélité, uniforme, constant. Et puis il y a aussi tous les signaux ponctuels du monde mécanique, proches ou lointains, plus proches des sons hi-fi, haute fidélité. Les bips de recul des engins de manutention, les bruits de grue, les outils, ou encore une portière qui claque. Les bruits mécaniques du transport routier, des activités portuaires et des navires représentent une large majorité des bruits décrits par les personnes interrogées. Pourtant, comme en contrepoint, la seconde grande catégorie de mots qui reviennent le plus dans les réponses est celle des bruits naturels. Les premiers des sons naturels sont les sons des éléments, et particulièrement ceux de la mer, selon Murray Schafer, ainsi que les sons de la météo, comme celui de la pluie ou du vent. Les mots mer, vague ou clapotis reviennent régulièrement dans les réponses données, particulièrement dans les endroits relativement épargnés par le bruit de la circulation, comme la digue de la marina du château. Car sur la plus grande partie du port, même si la mer n'est jamais loin, ce n'est pas pour autant qu'elle s'entend réellement, couverte par les bruissements de la vie urbaine. Le vent revient également souvent dans les réponses, celui des bourrasques aux bruits sourds ou des brises légères qui font carillonner les drisses des mâts des voiliers. Et puis, surtout, les bruits naturels les plus cités par les personnes enquêtées sont les cris des oiseaux. L'attention se concentre principalement sur les oiseaux marins, particulièrement les goélands et les mouettes, malgré la présence sur le port de nombreuses espèces typiques de la vie faune urbaine, comme les moineaux ou les pies, bien moins souvent cités. Rien d'étonnant malgré tout, et preuve du lien étroit entre les représentations portuaires et l'imaginaire de la mer. La perception de la place que ces sons occupent souligne néanmoins un paradoxe des représentations portuaires. Par essence, un port, surtout un port industriel, est un espace aménagé, transformé, conformé, en bref, anthropisé. Or, il semble représenter pour les enquêtés une interface entre la ville et la nature, incarnée dans la rade de Brest. Nous voyons dans ce résultat à la fois l'expression d'un des biais du questionnaire, mais aussi celle de la séparation entre le port comme entité économique et productive et un port fantasmé. Et puis, l'aménagement du littoral de Brest joue sans doute dans cette surreprésentation de la nature dans les perceptions des bruits du port. C'est qu'à Brest, l'accès au littoral depuis la ville est fortement contraint par la présence à l'ouest de Lappenfeld du port militaire et à l'est de la zone industrielle portuaire qui s'étale jusqu'au Moulin Blanc. Entre ces deux mastodontes fermés au public, seule une petite partie du port de commerce permet de s'approcher au plus près du littoral et de la mer, ce qui favorise un surinvestissement de la dimension naturelle du lieu. Aux côtés du couple bruit mécanique-bruit naturel, une troisième grande catégorie de mots recueillis se dégage dans les réponses du questionnaire. Les bruits de la fête et de l'animation. La terrasse du Troquet est un endroit de choix pour le chercheur qui travaille sur les ports, autant pour observer ses alentours que parce que ce sont des lieux de premier plan dans les imaginaires portuaires. La dimension festive du port est en effet un des traits saillants de son imaginaire, associé à l'idée du retour à terre après les périls de la mer. Sans oublier les excès proverbiaux des marins. Cet aspect de l'imaginaire portuaire n'est absolument pas contemporain. Il s'est au contraire forgé de longue date, notamment autour de la figure du corsaire, du forban, bien décidé à dépenser sa solde, mal acquise, cela va de soi, avant de se risquer à repartir. Dans l'ouest de la France, Cet imaginaire portuaire de la fête s'est également trouvé renforcé par la légende noire de la Bretagne, là encore tout sauf une construction contemporaine, celle d'une province gangrénée par l'alcoolisme. L'imaginaire portuaire breton de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle se nourrit donc de la vision fantasmée des bouges et des taudis du port, où se côtoient la misère, le vice, le crime. Point de bouge aujourd'hui sur le port de Brest. Reste la présence nombreuse de restaurants et de bars et la permanence certaine du rôle festif associé au port. Les enquêtés soulignent la place du bruit des bars et des restaurants et les mots qui relèvent du champ lexical de la musique reviennent souvent. Ça montre bien l'engouement du public pour les événements organisés sur le port de commerce, particulièrement chez les populations les plus jeunes. À titre personnel, il m'est par exemple difficile de penser au port de Brest sans penser aux fest-noz du Tarahine le lundi soir ou aux chapiteaux installés sur le parc à chênes pour des fanfares ou de la musique punk. À l'heure des repas, les restaurants s'animent et déclinent les bruits des couverts, le tintement des verres ou des tasses de café contre leur soucoupe. Ils sont cependant plutôt tournés vers une clientèle urbaine et aisée, ou bien vers les employés des entreprises du secteur tertiaire présents sur le port. Les débits de boissons, pour leur part, animent la vie vespérale et nocturne, engendrant parfois des nuisances, des cris, mais aussi du rodéo urbain. Les restaurants incarnent la continuation de l'imaginaire des abris de marins, lieux de repos et de restauration. Et les bars s'inscrivent pour leur part dans l'héritage de l'imaginaire de la débauche. Mais dans l'un ou l'autre des cas, il est nécessaire de souligner que la permanence des imaginaires portuaires doit être mise en regard avec les transformations spatiales et sociales des ports. Dans les faits, les loups de mer ou les ouvriers du port s'y font rares. Ils sont remplacés par une clientèle urbaine et dotés d'un certain capital, économique ou culturel. Restaurants et bars partagent également en commun un son particulier, caractéristique de l'ambiance festive. Les rires et la rumeur des conversations qui s'entrecroisent. Le bruit des gens est certes un son naturel, mais il s'inscrit avant tout dans une dimension sociale. Les bruits des autres renseignent sur l'utilisation de l'espace et permettent ou non certaines pratiques. Les bruits humains possèdent aussi une dimension temporelle, ici celle du moment de la pause et du temps des loisirs. Et puis, comment parler de la dimension festive du port de Brest sans mentionner deux grands rassemblements, les Jeudis du port et les Fêtes maritimes ? Ces événements particulièrement populaires s'inscrivent dans un mouvement de création et de mise en valeur du patrimoine maritime dans lequel Brest a été à l'avant-garde. Mais ils participent également d'une simplification des patrimoines maritimes et d'une mise en scène de l'espace portuaire dans une perspective de promotion urbaine. Et ils accompagnent effectivement la séparation entre la ville et le port industriel. D'un côté, la ville qui scénarise ses héritages maritimes, qui transforme socialement les lieux qu'elle peut encore occuper à grands coups de politique de réaménagement et d'uniformisation de l'espace. Et de l'autre, le port industriel fermé sur lui-même, au service de la production économique et du mirage d'une éternelle croissance. Malgré le poids indéniable des bruits mécaniques, des bruits naturels et des bruits de la fête, le paysage sonore du port de Brest reste une mosaïque plurielle, une symphonie tissée du bruissement de nos vies et de celles des autres, humains ou non humains. Ce paysage sonore, comme le paysage odorant que j'ai également tenté de comprendre dans mon étude, nous traverse autant que nous le forgeons, même si l'un comme l'autre peuvent paraître anodins, même lorsque l'on pense n'y pas prêter attention. L'étude des bruits, mais aussi des odeurs sur le port de Brest, dont ce travail n'a fait qu'effleurer la surface, permet de mieux comprendre les politiques d'aménagement de l'espace, mais aussi les aspirations de celles et ceux qui l'occupent. À l'heure des grands changements du capital océane, se recentrer sur notre rapport sensible à l'environnement peut nous permettre de mieux apprécier le poids de nos vies sur ce qui nous entoure, et nous permettre de mieux choisir ce à quoi nous tenons et ce que nous voulons préserver.
Ce podcast a été produit dans le cadre d'un stage de recherche proposé par la chaire Transition portuaire et maritime de l'Université de Bretagne Occidentale et de la Fondation UBO, avec le soutien de la Radio Transistor.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, louer du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, louer du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, louer du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.